Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip larges Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Les immanquables avec Alfred Orange. Alfred, on commence avec l'adieu du jour.
Oui, Noël Le Graët n'est plus président de la Fédération Française de Football. Comme attendu, le dirigeant a présenté ce matin sa démission lors du comité exécutif. Démission acceptée par l'ensemble du comité. C'est la fin d'un long feuilleton, d'un long malaise autour du président, accablé au début du mois par le rapport d'audit diligenté par la ministre des Sports, qui le jugeait illégitime pour ce poste. Mais à 81 ans, Noël Le Graët est recasé. On vient de l'apprendre, il va diriger le bureau de la FIFA à Paris, un poste prestigieux que Noël Le Graët a réussi à décrocher, nous dit-on, grâce à ses compétences et son expertise du football français.
J'adore Magnan. C'est lamentable. Enfin, je veux dire, c'est lamentable, ridicule, dérisoire. D'abord, ce monsieur est hors course, hors champ, il faut qu'il s'en aille. Et ce côté d'être impossible, il faut s'accrocher, absolument impossible de quitter. Ce monsieur n'a aucun problème d'argent, n'a aucun problème de situation personnelle. Je trouve que ça donne une image.
Non, il a quelques problèmes... En tout cas, quelques accusations de comportement.
Il n'a aucune raison de continuer à vouloir absolument travailler, à s'accrocher à des postes qui doivent être d'ailleurs dûment rémunérés. Ce que d'autant plus, c'est un poste de direction et pas un poste de présidence qui fait que ça doit probablement être beaucoup mieux d'ailleurs rémunéré. Je trouve ça effectivement assez lamentable et au fond, assez scandaleux. Je rappelle que même les cardinaux, passés 80 ans, ne siègent plus au concile, quoi. Je veux dire que le football français, c'est pire que l'église catholique en matière de progrès social et de, au-delà de 80 ans.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son départ sous forme de démission, parce que personne ne pouvait le pousser à partir.
On l'a acheté,
c'est fait en échange d'un poste qui lui permet de rebondir. Ce qui veut dire que dans ce COMEX, parce que c'est ce qu'on lit dans la presse spécialisée, notamment les journaux sportifs, tout le monde se tient par la barbichette. Parce que d'abord, ce COMEX a validé, couvert le fameux malaise que tu appelles toi un scandale toutes ces années au sein de la Fédération française de football, et que voilà, tout le monde se tient par la barbichette et puis
quel camouflet pour le gouvernement, je pense notamment pour la ministre,
le gouvernement n'a pas de pouvoir.
Mais c'est un camouflet,
c'est pas un camouflet
pour diriger la Fédération française de football, et il retrouve immédiatement dans la foulée un poste à la FIFA.
Ça serait un camouflet s'il avait du pouvoir et qu'il n'a pas exercé.
Moi, je pense qu'il a plus toute sa tête, en fait. C'est ça le problème. Et c'est qu'il ne se rend pas compte. Même pour lui, je trouve ça triste, parce que ça a été un maire de Guingamp pendant des décennies, maire socialiste. Il avait une vision de la société qui pouvait être progressiste, pour finir par se faire recaser par la pire chose qui existe, qui est la FIFA, qui croule sous les scandales les uns après les autres. Faut avoir abdiqué toutes ses convictions personnelles. Et moi, je pense que là, comme dans beaucoup de domaines, si on fixe une limite d'âge, c'est parfois nécessaire. Voilà, il faut savoir s'arrêter. Oui. C'est dommage d'être foutu à la porte. Il faut savoir s'arrêter de soi-même et qu'il y ait un renouvellement. Vous savez, on parle souvent de la démocratie élective. Moi, je l'ai regretté au départ, mais deux mandats successifs pour un président de la République, c'est bien, parce que même s'il était réélu 3 fois, 4 fois, 5 fois, c'est pas la même chose. Quand vous avez un maire qui fait 5 mandats, 6 mandats, 7 mandats, c'est pas bien non plus, même s'il a été réélu, parce qu'on s'habitue, on vit dans le confort du sujet, on se remet plus en cause. Là, c'est pareil, c'est président de fédération qui pense qu'ils doivent rien à personne, sauf à leur comité exécutif à la con. Je suis désolé, ils agissent, c'est une délégation de service public, président de la fédération de football. C'est l'État qui vous délègue une mission de service public qui est d'organiser des compétitions sportives. Donc, il doit rendre des comptes. Alors là, la FIFA, ces gens sont certainement brillants, mais en termes de communication, je ne suis pas sûr quand même.
On passe au soupçon du jour, Alfred.
Il est porté sur le réseau social chinois TikTok. La Maison-Blanche a demandé aux agences fédérales américaines de bannir l'application sur les appareils de tous ses employés. Les autorités américaines craignent que les données récoltées par TikTok soient utilisées par le gouvernement chinois. Tout cela s'ancre dans un climat de défiance vis-à-vis de Pékin, accusé d'espionnage il y a quelques semaines, vous vous en souvenez, avec ses ballons météo dans le ciel américain. Le Canada et l'Union européenne ont passé des consignes similaires à leurs employés. TikTok, de son côté, nie ses accusations et assure protéger les données de ses utilisateurs.
Sachant que c'est le réseau social aujourd'hui, je ne vais pas dire de bêtises, le plus utilisé au monde, en tout cas l'un des plus utilisés, et notamment par les plus jeunes.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que ça touche la partie la plus jeune.
Il y a une vraie inquiétude autour de ce réseau social.
Pardon ?
Il y a une vraie inquiétude, Thierry, autour de ce réseau
social. Alors, je pense qu'il y a une inquiétude parce qu'il ne faut pas se leurrer. Les Chinois, ils n'ont aucun scrupule sur les collectes de données, sur le danger potentiel de ce réseau, parce que chez eux, ils interdisent aux enfants de moins de 14 ans d'utiliser le réseau de plus de 40 minutes par jour. Donc, ça ne les gêne pas de pervertir le monde entier et de faire attention à leur population. Quant à la collecte des données, ça ne leur pose aucun problème de collecter la donnée de leur propre population. On sait qu'elle est hyper surveillée. Donc, ça fait partie du soft power, ce qu'on appelle le soft power chinois. Ça intervient, comme tu l'as très justement dit, dans une période de tension avec les États-Unis, qui fait qu'évidemment tout le monde se méfie de tout le monde. Mais je pense que
il n'y a pas que les États-Unis, il y a l'Union européenne, le Canada qui ont pris les mêmes mesures.
Oui, mais je pense que les dégâts sont déjà faits. Je pense qu'ils ont déjà aspiré toutes les données possibles et imaginables.
Ça va dans la même ligne que l'éviction des fournisseurs de hardware, c'est-à-dire les logiciels, les éléments électroniques pour l'équipement des antennes relais en téléphonie, etc. Parce qu'on savait que la Chine adore poser des bretelles et intercepter tout en passage. Sur TikTok, il y a quand même des responsables, c'est Baidu, c'est ça le propriétaire, qui ont dit que il a pu arriver par mégarde que des données personnelles aient pu être collectées contre notre volonté.
Oui, c'est ça.
Des choses qui arrivent par mégarde contre la volonté en Chine, j'en connais pas.
À l'insu de son plein gré.
Voilà. Oui, c'est ça, à l'insu de notre plein gré.
Donc, moi, je pense que c'est Richard Virenque qui est derrière tout ça.
Pierre-Edouard, plus sérieusement, est-ce que toi, tu as aussi une réelle inquiétude à l'égard de ce réseau social? Alors, parce que encore une fois, enfin, je le disais tout à l'heure, enfin, c'est pas un petit, enfin, c'est un réseau qui a pris une ampleur phénoménale depuis quelques années, et notamment, je le dis auprès des plus jeunes et des jeunes en général. Il y a des questions à se poser.
Alors d'abord, de toute façon,
moi, quand j'entends que l'Europe, les États-Unis, le Canada interdisent
c'est l'administration de l'Union européenne.
Oui, l'administration.
C'est des joueurs ludiques en plus, parce que
leurs employés utilisent TikTok. Et quand moi, je sais que ma fille, j'ai réduit à 30 minutes.
Le ministère français de la Défense a envoyé des directives pour demander à ses employés, nos soldats, d'être très vigilants sur les applications qu'ils utilisent, y compris à titre personnel. Je vous rappelle qu'en Ukraine, les Ukrainiens ont réussi à plomber des Russes qui communiquaient par des applications qu'on trouve n'importe où. Hein.
Pierre-Edouard.
Il y a un problème général, de toute façon, déjà à la base de collecte de données par l'ensemble des réseaux sociaux. Je pense d'ailleurs que l'Europe a mis en place. Non, mais il y a déjà un problème global, et rappelons-nous cette formule, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc le propre de ces réseaux sociaux, c'est qu'ils t'utilisent comme produit. Là, il y a en plus un problème qui se surajoute, qui est potentiellement un problème politique, un problème stratégique. Alors, faut pas non plus minorer la dimension politique communication de cette affaire dans le contexte actuel avec la Chine. Ne minorons pas cet aspect-là. Après, ce sont évidemment pas des anges. C'est une dictature relativement épouvantable. Et c'est un euphémisme normand, quand je dis relativement épouvantable. Et effectivement, il y a du coup une inquiétude d'autant plus grande, puisqu'on sait qui est derrière TikTok. En Chine, une entreprise privée n'est jamais vraiment privée. Et surtout pas de la surveillance de son gouvernement. Donc, évidemment, oui, c'est sûrement positif. Mais au-delà de ça, ça pose toute la question de l'usage des réseaux sociaux, de l'usage de l'Internet et comment on arrive à maîtriser nos données. En Europe, il y a un règlement qui est en train d'ailleurs de faire école, dans beaucoup de monde entier, auquel on veut soumettre l'ensemble des entreprises étrangères qui interviennent sur le sol européen. C'est évidemment très compliqué parce que, et si notre ami Anthony Morel était là, le problème c'est qu'on a toujours un coup de retard sur la technologie quand on veut en contrôler les effets. Mais la question de la gestion de nos données personnelles, de savoir ce que l'on fait, de la trace électronique que l'on laisse, c'est de toute façon un sujet important au-delà de la situation politique chinoise propre à TikTok.
Allez, on passe à l'accusation du jour, Alfred.
Oui, une jeune femme de 24 ans accuse le latéral marocain du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, de l'avoir violée. La victime présumée qui s'est présentée au commissariat de Nogent-sur-Marne dimanche matin affirme avoir été victime de baisers et de pénétration digitale de la part du footballeur avant d'arriver à se libérer. Tous deux se seraient connus sur le réseau social Instagram. Le joueur aurait ensuite invité sa victime chez lui à Boulogne-Billancourt. C'est là que la rencontre aurait dérapé. Le joueur du Paris Saint-Germain était en tout cas seul chez lui à ce moment-là. Sa femme et ses enfants étaient en week-end à l'étranger.
Qui veut réagir ?
Je
pense qu'il faut surtout attendre l'ouverture d'une enquête, l'enquête qui va se faire, et ensuite les différents témoignages qui vont être recueillis. Là, c'est une information qui est tombée il y a moins de 24 heures. Mmh. C'est très compliqué de dire quoi que ce soit sur ce sujet. L'important, comme d'habitude, et c'est heureusement un mouvement qui a pris de l'ampleur, c'est on écoute les victimes. Puis après, on enquête et on essaie de trier le bon grain de livret.
Jérôme ?
Si c'est vrai, c'est grave. Et tous les mots de cette phrase sont importants.
Ouais.
Si c'est vrai, c'est grave. Si c'est pas vrai, c'est grave aussi.
J'allais te dire, c'est exactement ce que j'ai été dans les deux cas.
Est-ce que c'est grave
parce
aussi
que le nom est sorti, parce que voilà, dans la presse, dans les médias,
Risque de
forcément, la prochaine fois où il sera sur un terrain, tant que l'enquête sera pas... La vie ne sera pas rendue, et il n'y a pas de...
Et surtout, je ne sais pas si ça bougeait, parce que ce matin, en fait, par contre, cette victime supposée, au sens du droit, que j'emploie le terme, elle n'avait pas, pour l'instant, pas souhaité porter plainte.
C'est ça.
Il faut absolument, il faut absolument qu'elle porte plainte, parce qu'il n'y a aussi que comme ça qu'il y aura véritablement une enquête. Alors, je pense que le procureur va se saisir d'office.
Non, il y a une enquête préliminaire.
Mais donc, il faut...
Le parquet s'est auto-saisi.
Voilà, le parquet s'est auto-saisi, donc il faut effectivement attendre l'enquête. Après, voilà, je suis toujours gêné... qu'on jette ces procédures, finalement, aussi bien d'ailleurs pour la victime que pour la personne mise en cause, qu'on ait des détails que je trouve parfaitement sordides et qui... donc voilà, je trouve que c'est toujours gênant. Et en tout cas, j'espère qu'on suivra, parce que si c'est vrai, il faut qu'il soit évidemment exclu et condamné. Et si c'est faux, il faut aussi que ce soit dit, de manière à ce qu'il soit aussi dûment réhabilité, ou sinon on va encore refaire tous les discours qu'on a eus sur Julien Bayou, sur d'autres personnes, etc., où on achetait des noms, et à la fin, il y avait rien. En tout cas, il n'y a pas eu de conséquences judiciaires, et nous, on ne peut s'arrêter que là. Et du coup, et dans les deux cas, effectivement, comme l'a fera bien dire, si c'est vrai, c'est grave. Si c'est pas vrai, c'est grave aussi.
Le banco du jour, Alfred.
Il est à mettre au crédit des touristes étrangers de retour en force après le Covid. L'an dernier, ils ont généré 58 milliards d'euros de recettes. C'est ce qu'annonce Atout France, l'agence chargée de la promotion du tourisme français à l'étranger. 2022 fait mieux que 2019, dernière année avant la pandémie. Les Belges, les Allemands et les Britanniques sont les touristes qui ont le plus dépensé chez nous, juste devant les Américains, un record. Alors que les touristes venant d'Asie, eux, se font toujours attendre en France.
Thierry Moreau.
Je suis très content que les Belges viennent dépenser 7,3 milliards d'euros en France. Ouais. Sauf que c'est bien parce que c'est, j'aime beaucoup les Belges. Mais je pensais pas que c'était les Belges. Franchement, quand j'ai vu ce classement, j'ai été surpris. Après, je pense que les Asiatiques, ils ont du mal encore à revenir chez nous, mais ça va revenir.
Il
y a encore des restrictions. Mais elles sont de plus en plus levées quand même.
On en a parlé la semaine dernière. Il y a de moins en moins de Japonais qui veulent désormais voyager à l'étranger. Contrairement à ce qu'on pense, parce qu'à Paris, c'est très... Les Japonais aiment beaucoup Paris, etc.
Mais en volume, c'est très peu.
Les Japonais, j'avais vu ça. 35% des Japonais voyageaient réellement, occasionnellement, en dehors de leur archipel. Et aujourd'hui, il ne sont plus que 30% à le faire. Il y a de moins en moins de Japonais.
Ouais. La seule chose que j'espère, c'est que.
30% de Chinois, ça te fait des centaines de millions.
Bien sûr.
La seule chose que j'espère, c'est ceux qui sont revenus, notamment dans la capitale, sont suffisamment contents de la capitale qu'ils trouvent pour pouvoir y revenir.
Ça, c'est une autre question.
Voilà.
C'est juste ça. C'est une autre interrogation.
Je sais pas, tu sais, il y en a ceux qui vivent dans le monde d'Emily in Paris, les Américains.
Ah bah,
ils sont très fans de cette série, ils viennent. Mais apparemment, ça a l'air de leur plaire quand même. Ouais. Ils vont pas forcément aux mêmes endroits que les personnes qui habitent ou qui travaillent à Paris.
Tu ne visites pas une ville comme tu y vis.
Heureusement.
Moi, je suis pas parisien en plus, donc voilà.
Heureusement
mais je veux
pour
dire,
Paris.
Moi, j'entends ici beaucoup de choses sur Paris, et moi qui ne suis qu'un Parisien occasionnel, j'ai pas forcément ce même sentiment, mais c'est en même temps révélateur.
La Tour Eiffel est assez propre.
Oui, puis quand tu te balades à Montmartre, c'est vrai qu'il y a plein de touristes, et c'est plus agréable.
Il y a du tourisme à Paris, mais j'y passe.
La France n'est pas Paris, n'est pas que Paris.
On est bien d'accord.
Et il y en a beaucoup qui viennent en province, et moi, je suis très heureux d'accueillir souvent. J'ai pas beaucoup d'Américains, ça m'est arrivé une fois, de l'Alaska qui était venu en Dordogne, mais j'ai souvent des Belges et des habitants des Pays-Bas. Ah, des Hollandais, des Pays-Bas.
Ah, oui. Donc 7,4 milliards, Jérôme, parce que les Belges, 7,4 milliards.
Eh oui, ça ne se sait pas assez, je suis milliardaire.
Allez, on termine avec le gâchis du jour.
Les impôts t'écoutent.
85 000 viticulteurs français vont être contraints de distiller une partie de leur volume, faute de débouchés. Deux raisons à cela. D'abord, la baisse de la consommation française. On boit de moins en moins de vin dans l'Hexagone. Et puis, à l'étranger, seuls les vins très haut de gamme s'exportent bien. Résultat, les excédents de vin vont être transformés en alcool pour l'industrie, la pharmacie ou les cosmétiques. 200 millions d'euros vont être débloqués pour dédommager les viticulteurs.
Thierry Mo.
Oui, c'est ça, j'avais lu entre 160 et 200 millions d'euros débloqués par le gouvernement pour distiller cette surproduction. Les agriculteurs réclament en plus 10 000 euros par hectare de vignes arrachées. Je pense qu'on a un problème et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la restauration. C'est-à-dire que ceux qui font du bon vin de qualité à des prix honnêtes vont s'en sortir. Les très hauts de gamme vont s'en sortir parce qu'ils importeront toujours. Et puis, il y a un tout venant, pas très bon, pas très agréable, qui lui souffre.
Alors, est-ce que c'est pas la même chose que tout à l'heure pour les restaurateurs? Tu dis, on va faire le ménage?
Je pense que le tri va se faire de facto. Voilà.
Le client est roi, hein. Je suis désolé, on disait ça dans les années 80.
Ah non, je suis d'accord.
Le client est roi, bah, forcer des gens à acheter. On a,
je suis complètement d'accord.
De positionnement, on a eu ce débat avec Péricot il y a quelques semaines. Le problème, c'est qu'en France, on essaye de vendre des étiquettes. Alors que les gens, dans le monde entier, ils achètent de la couleur et du cépage. Mmh. Et donc, le sous-château de je ne sais pas où, du Claude machin, qui vend rien, voilà. Il faut s'adapter aussi. Le client est roi, on ne va pas les forcer à boire. Hein.